Fidèle au personnage représenté, sa statue n'est pas restée immobile, mais a déjà voyagé, non pas entre l'Italie et l'Angleterre, mais d'un endroit à l'autre dans la ville d'Anvers.
Aujourd'hui, dans cette zone piétonnière, Anthony van Dyck se dresse plus grand que nature, habillé à la mode de l'époque, s'appuyant sur un cadre ovale et une liasse de papier à dessin. On peut se demander si l'endroit où se trouve cette statue lui rend bien l'hommage qu'il mérite. Plus loin dans cette promenade, nous nous trouverons devant l'Académie, à l'actuelle rue Mutzart, rue du Fagot. Là, il aurait été mieux à sa place, en tant que peintre et, en plus, dans le voisinage de son tout premier atelier. Plus tard, les statues de Jordaens et van Dyck se sont tenues compagnie sur l'actuelle place Franklin Roosevelt. Ces va-et-vient de leurs statues sont le résultat de la circulation urbaine croissante, aussi bien des tramways que des voitures. Heureusement ici, sur la place de Mer, Anthony est tout proche de la maison de Maître Rubens. Les peintres baroques du XVIIe siècle jouissaient d'une renommée internationale. Pour preuve, les voyages d'études en Italie, les commandes émanant des seigneurs régionaux, des cours royales de France et d'Angleterre, et, dans le cas de la République des Provinces Unies des Pays-Bas, également les commandes de la part des conseils municipaux et des stadtholders. À quelques pas d'ici, vous pouvez saluer David Teniers, le jeune, fondateur de l'Académie anversoise, et dont la statue en a décoré le jardin. La nouvelle formation, donnée dans cette école de peinture, a rompu avec la tradition de relation historique entre maître et apprenti, sur laquelle la Guilde de Saint-Luc s'était appuyée jusque-là. L'initiative pour les commandes de toutes ces statues date de la seconde moitié du XIXe siècle. C'était l'époque où le romantisme exaltait un passé glorieux.